19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir, vous le savez, ici même. Ici même, ça se passe comment? Eh bien on commente, on analyse, et puis surtout on décrypte l'actualité. Ensemble jusqu'à 20h, chers amis. Allez, c'est parti. 0153483000, ça c'est votre numéro. Vous venez, vous commentez, vous analysez là, évidemment avec votre regard. Ensuite, les débatteurs viendront commenter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur l'allocution du président de la République. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et puis surtout, 48 heures, un ultimatum. Bon, on va en parler. Le Rassemblement National, finalement, n'est-ce pas la première force politique? Parce qu'ils ont décidé de s'organiser, mais surtout, vous savez quoi? Eh bien, ça va, on reviendra sur les principales éléments, vous savez quoi, qui de stratégie concernant le Rassemblement National, pour en parler tout à l'heure sur l'antenne en direct. Et puis surtout, alors, on reviendra aussi sur un sujet aussi qui a retenu notre attention. Alors, vous savez qu'on parle de plus en plus de remaniement ministériel. Quand? On ne sait pas. Qui? On ne sait pas. À quel moment qui y entre? On ne sait pas toujours. Va-t-il, évidemment, renouveler intégralement le gouvernement? C'est ce qu'on entend dire, figurez-vous. Y compris, Madame Borne, la Première Ministre, ne serait plus Première Ministre. Alors, dans ce cas-là, la question se pose, que se passe-t-il s'il y a remaniement ministériel et que compte faire le Président de la République? Voilà le programme qui vous attend. À 19h30, vous le savez, comme chaque jeudi, Pascal Boniface, le patron de l'ERIS, eh bien lui, il viendra nous parler de l'actualité, mais également de son billet d'humeur. Voilà le programme, c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et tout de suite, nous allons rejoindre notre invité avec lequel on a quelques, évidemment, complexités à le joindre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais notre invité, on a beaucoup de mal. C'est Sabrina Sebaïu qui a été élue députée, donc Europe Écologie Les Verts, qui est notre invité aujourd'hui, dans la circonscription de Nanterre, La Défense plutôt.
Nanterre-sur-Aisne.
C'est ça, Suresnes, oui, pardon, Suresnes, qui viendra donc ici même... nous parler donc de sa stratégie et puis de ce qui va se passer donc pour elle dans la future au futur Parlement. Le face-à-face avant de retrouver Sabrina Sebaï, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, c'est avec Pierre-Henri qui est en retard et qui est coincé sur le périphérique de Porte de Montreuil de nous écouter. On vous attend, mon cher Pierre-Henri. Ils sont sur le plateau, ils sont présents, ils sont à l'heure. Monsieur le conseiller régional, Philippe Nadji-Boyaki, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Vous êtes venu en mode beau gosse là, hein, chemise, veste, costume,
clochette
et tout. Aïe, qu'est-ce qui se passe?
On doit porter l'uniforme, hein. on a une fonction, il faut qu'on soit digne de cette fonction. Et c'est un message qui m'a été envoyé par les électeurs et les électrices.
Il est surtout en train de basculer, il passe de Europe et écologie.
Ah, je suis à l'écologie au centre maintenant.
Les affaires, hein, c'est l'écologie de centre, c'est le business.
Non mais j'ai une indemnité hein, pour m'acheter des vêtements. Je m'en suis acheté que deux costumes en un an, donc ça va, j'ai pas forcé.
À vos côtés, eh bien, c'est Raed Chaibi, le président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Bonjour, monsieur le président.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Bonsoir à celles et
ceux. Vous avez bronzé, vous?
Oui.
Où ça?
À Drancy.
À Drancy, c'est vrai?
Oui.
Le mec, il passe sa vie en terrasse, tu sais. Je bosse en terrasse. C'est excellent, ça. Notre invité est là? Non, toujours pas. Bon, eh bien écoutez, on va tâcher de la joindre. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre invitée. Elle doit être peut-être hors réseau. Messieurs, tout de suite, nous allons, vous savez quoi, revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier soir. Très peu de temps, 8 minutes. On a fait évidemment, on a calculé la durée. Il a reconnu donc qu'il y a des fractures. Il a reconnu que, évidemment, qu'il était prêt à gouverner différemment. Il a reconnu aussi également qu'il fallait une nouvelle méthode, parce que le moment est quand même important. Il a reconnu aussi beaucoup de choses, mais surtout, il a donné 48 heures pour bâtir ce fameux projet d'union nationale et faire des propositions. 48 heures, c'est pas tôt. D'abord, comment vous réagissez? D'abord, étape par étape. Comment vous réagissez, messieurs? Comment vous l'avez trouvé hier? Franchement, dans son allocution, comment vous l'avez trouvé? Parlons-en justement. 0153483000, y compris les auditeurs, je voudrais les entendre sur ce sujet. Comment ils ont trouvé le chef de l'État hier durant son allocution? Philippe Nadji-Boriaki.
En place, fort, stoïque, intelligent, il a fait un coup de maître extraordinaire. Moi, il m'épate de jour en jour.
C'est pas le macroniste qui parle. Hein. C'est
pas ah non, je suis pas du tout macroniste. Mais je me dis, mais il est vraiment très fort.
Là, pourquoi
vous
dites ça?
Ben, il les a mis dans une impasse. Tout le monde pensait qu'il était mort et enterré et qu'il allait souffrir pendant 5 ans. Et il dit, non, attendez, vous avez pas compris. Moi, je vous montre que je suis un démocrate. Montrez-moi que vous aussi, vous pouvez être des démocrates. Si c'est pas le cas, pas de souci. J'ai un levier. Et puis, les Français et les Françaises, à force d'être dans une situation...
Donc, c'est la stratégie du pourrissement.
Ah ben, complètement. Elle lui sera forcément favorable. C'est indéniablement. Il m'épate vraiment. Je le voyais mort et enterré. Et je crois qu'on l'a tous vu mort et enterré, surtout quand il a 45 voix d'avoir la majorité absolue pour pouvoir faire passer toutes ces lois et toutes ces réformes qu'il souhaite le faire. Aujourd'hui, il met dans une impasse les Républicains. On voit qu'il y a un front qui est en train de monter des élus de territoire, c'est-à-dire des maires, des conseils départementaux, des conseils régionaux, et même les députés, ils vont pas pouvoir tenir très longtemps, parce qu'il va se passer quoi chez eux? C'est l'explosion, c'est l'implosion. On voit que Rachida Dati, je crois qu'il y a Copé, Sarkozy sont sur la ligne de dire il faut faire un pacte de gouvernemental avec Emmanuel Macron. D'autres qui sont comme un petit peu Jacob et je crois Wauquiez qui se voit déjà être candidat, mais ça c'est pas pour tout de suite, qui disent non, hors de question, sinon c'est-à-dire qu'on lui ensemble. Mais quand vous regardez Édouard Philippe Horizon et que vous regardez les LR, dites-moi où est la différence. Donc indéniablement, c'est ceux qui sont le plus proches aujourd'hui sur le papier d'Emmanuel Macron. C'est soit ils font un pacte de gouvernement avec lui et ça va venir de la base, soit ils sont morts et enterrés. Ils auront zéro député dans quelques temps. Et puis s'il est intelligent, il nomme Valérie Pécresse Premier ministre. C'est ce que je ferais si j'étais lui.
C'est vrai. Valérie Pécresse. Hier sur ce même plateau, on parlait de Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas tenable, ils se détestent, ils l'ont qualifié d'extrême gauche, de danger pour la
République. Pourquoi Valérie Pécresse?
Parce que Valérie Pécresse est une femme intelligente, c'est une femme à la tête de la région qui... Alors, et pourtant.
Donc ça voudrait dire, ça sous-entend que là, il y a alliance avec, coalition avec les Républicains.
Alors, Valérie Pécresse n'est plus aux Républicains, elle est à Libre, mais. C'est la même famille. Et oui, bien sûr. On voit qu'hier la Macronie a élu présidente de groupe Aurore Berger, a élu est pressentie présidente de l'Assemblée nationale Madame Baume, la ministre d'Outre-mer. Donc elle va passer, ça sera le ministre d'un mois. Et donc forcément, il est obligé de continuer cette dynamique. Vous pouvez pas sortir Elisabeth Borne et la remplacer par un homme, ça fait mauvais cliché. Et donc la seule femme aujourd'hui, moi sur le papier, qui a les compétences, qui a la carrure, qui a la posture, c'est une femme qui a été à l'élection présidentielle, quel que soit le score.
On se et c'est un pitbull aussi.
Et puis elle est efficace à la région. Moi,
vous êtes avec elle. Oui,
non, pas encore.
Vous êtes à la région.
Je suis à la région et je vois de manière assez pragmatique Othmane Nasrou, Patrick Cara, Monsieur Berger. Stéphane Baudet, Florence Portelli, je vois ce qu'ils font. Et sérieusement, on les a toujours dépeints comme des méchants. Moi, je les regarde avec attention et plus curiosité. Et je me rends compte qu'ils sont action-réaction. Et ils ne regardent même pas les étiquettes. Vous savez, moi, je les ai sollicités sur quelques sujets qui me tenaient à cœur et qu'on m'avait apporté. Ils n'ont pas regardé si j'étais de gauche, si j'étais écologiste. Ce qu'ils ont regardé, c'était la problématique qu'on pouvait mettre en place pour les habitants et les habitantes. Et quand vous avez affaire à des gens comme ça, vous dites, attends, là, il se passe quelque chose. Et ces gens-là, qu'on classifie à droite, je peux vous assurer que sur le terrain, ils sont pragmatiques. Et donc, forcément, si vous êtes intelligent, et je ne doute pas qu'Emmanuel Macron, et vous avez vu, tout c'est pas mon pote, Emmanuel Macron, ça n'a jamais été la cam, eh ben, il est intelligent, et s'il est intelligent et qu'il veut terminer le game d'un côté comme de l'autre, c'est vers les Républicains, vers l'UDI, et il met Valérie Pécresse en tant que Premier ministre. Je ne sais pas si elle acceptera, je ne peux pas parler en son nom, mais elle a fait des sorties pour dire il faut qu'il entende ce que les Français lui ont dit. Donc elle lui envoie aussi des messages, et je pense que ces 48 heures, c'est aussi ça qui est en train de se tramer, de se jouer.
Qu'est-ce que vous en pensez, Ariel Chebi, Valérie Pécresse comme Premier ministre? 01 53 48 3000, je voudrais les entendre justement. 01 53 48 3000, je voudrais évidemment vous entendre venir partager votre commentaire ici même. Je vous attends au 01 53 48 3000. Yanis vous accueille au standard, Ryan Chaibi.
Bon, je pense pas que ce soit Valérie Pécresse qui soit forcément la bonne personne, parce que dans ce genre de situation, il faudra un Premier ministre qui soit capable, en tout cas, d'avoir l'oreille attentive d'une éventuelle coalition composée de personnalités de gauche et allant jusqu'à la droite modérée. Mais pour en revenir à ce que disait le président de la République hier, moi je pense qu'il a fait un constat lucide de la situation, à savoir que l'Assemblée traduit les fractures et les divisions profondes de notre pays. On ne peut pas décrire mieux ce qui se passe. Donc, il a été parfaitement lucide sur la situation, en rappelant évidemment qu'il détient la légitimité du peuple, notamment, ça c'est un message envoyé à ceux qui appellent à sa démission, et que maintenant qu'une Assemblée a été élue et qu'elle traduit la division, malheureusement, de notre pays, eh ben, il n'y a pas 150 000 solutions. Et d'ailleurs, je souscris pleinement, et Édouard Philippe avait complètement raison de dire avant-hier, en disant que il faudra faire une coalition de gens qui spontanément n'ont pas envie de travailler ensemble ou bien qui se sont engagés dans des programmes différents. Il n'y a pas d'autre solution. De toute manière, c'est de créer cette coalition. Donc, soit on a une classe politique intelligente qui soit capable de surpasser les différences pour, je dirais, travailler dans l'intérêt général, ou soit c'est clair et c'est net, ça finira en dissolution, et le risque que nous aurons, c'est de ne pas avoir 89 députés du Rassemblement National, mais peut-être 120, 130 ou 150.
C'est pas faux.
Donc moi j'en appelle à la responsabilité du personnel politique. Parce que
est-ce que les gens ne sont pas dégoûtés de la chose politique? Parce que moi, j'ai reçu les appels la semaine dernière, 01 53 48 3000. Tiens, je vais poser une question, pardonne-moi, à Riyad Chaibi. Aux auditeurs, est-ce que tout cela ne vous dégoûte pas de la politique? Encore plus d'ailleurs, 01 53 48 3000, je vous attends au standard.
Ce qui m'inquiète, Adil, c'est que vous voyez, en France, on n'a pas cette culture politique qu'ont les Allemands, par exemple, qui sont capables, dans des situations difficiles, de, je dirais, de se rassembler autour, on va dire, de plateformes programmatives. On n'a pas en France, comme en Allemagne, cette culture de coalition, cette culture du compromis. Pourquoi ? Parce que les postures prennent le pas sur les idées. Mmh. Et le jour où en France, on arrêtera d'avoir les postures qui prennent le pas sur les idées, peut-être que
Philippe Ladibouriaki, qu'est-ce qu'il
a ? Il a raison. Il a raison sur le fait des postures et des idées. Simplement, il faut bien comprendre que la 5e République qu'a voulu le général de Gaulle a justement été faite pour ne pas se retrouver dans ce système de coalition qui existe dans 17 pays sur 27, il me semble, en Europe. Vous savez, en Allemagne, il y a des élections qui se font, et après, pendant 3 mois de tractation, et vous avez c'est encore beaucoup plus compliqué parce que, en fait, c'est les Länder qui font remonter, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant 3 mois, il y a des négociations. Vous savez, l'écologie au centre que je représente aujourd'hui, on est sur la position des Grenneurs allemands. Ça veut dire que vous êtes capable de travailler avec le SPD ou le CDU selon les avancées programmatiques qui sont prises en compte sur vos aspirations. J'entends ce que dit Rayed en disant qu'il appelle à la responsabilité, sinon c'est le Front National, il sera à 120%.
Mais comment vous voulez... C'est vrai.
Non, mais il n'a pas tort.
Parce que moi,
évidemment,
ce qui me tue...
Mais c'est à qui je t'adresse là-dessus. Est-ce que c'est républicain ou est-ce que c'est la France Insoumise?
On a de la posture. De toute façon,
on va parler de la
Rassemblement. C'est de l'hypocrisie ce qui est en train de se dérouler, parce que ni le LFI, bien sûr, ça m'étonnerait que la LFI accepterait de faire des compromis et travailler avec Emmanuel Macron. La gauche,
impossible.
Peut-être la tendance modérée accepterait peut-être de sortir et de faire alliance, c'est probable, en tout cas on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le Parti Socialiste est complètement enchaîné à l'accord avec la NUPES, et la droite, ils sont dans une posture. Et ce qu'a dit Philippe, il a raison, c'est qu'effectivement le président de la République a réussi, pour moi, un coup de maître en disant, mais moi, je vous ai reçu, nous avons discuté, faites-moi remonter les propositions sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord, et à ce moment-là, nous bâtirons certainement une coalition. Et vous voyez les réponses. La plupart sont dans une confrontation directe en disant « ça sert à rien, on veut pas, à demi-mot, on ne veut pas travailler avec vous ». Donc, il prend, et il a raison de prendre les Français à témoin. Et encore une fois, je suis sidéré de voir le manque de responsabilité auquel font, pour lequel ils font preuve, en tout cas, le manque de responsabilité dont font preuve, les responsables politiques, parce que derrière, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler des retraites, on va parler d'éducation pendant ce temps-là. Je dirais pas que le pays est à l'arrêt, mais il faut peut-être penser à celles et ceux qui attendent les réformes nécessaires. Et là, on a en face de nous un personnel politique qui a une posture. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 89 députés du Rassemblement National.
Vous êtes énervé, hein.
On en parlera, mais bien évidemment, parce que c'est du jamais vu. Et avec ce genre de posture, on en aura 130, 120, et peut-être que demain ils seront majoritaires. C'est tout ce qu'ils auront à gagner, et on n'aura que nos yeux pour pleurer.
0153483000, est-ce que cela évidemment vous dégoûte de la politique, hein? Je vous attends, 0153483000. Comment vous vivez évidemment toute cette ambiance politique, cette crise politique, y compris l'allocution hier du président de la République, du chef de l'État, donc Emmanuel Macron. Nous vous attendons, 0153483000. Le standard est ouvert. Nous marquons la première pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés au 0153 48 3000 19h23, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, nous sommes ensemble. Mohamed Delongjumeau, restez avec nous, je reviendrai vers vous justement, vous récupérer au standard. Nous allons accueillir notre invité tout à l'heure, on est parvenu à la retrouver, la toute nouvelle députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine du 92, Madame Sabrina Sebaï. Sabrina Sebaï, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Sabrina, vous êtes élue députée. Je voudrais vous féliciter, parce qu'on se connaît, vous êtes régulièrement chez nous, débattrice. Vous voilà propulsée désormais, donc députée de l'Assemblée nationale pour Europe Écologie Les Verts. Bravo et félicitations, Sabrina Sebaï.
Merci beaucoup, merci.
Alors, dans quel état d'esprit vous êtes depuis que vous êtes élue maintenant ?
Bah écoutez, très heureuse.
Oui.
Et fatiguée.
Fatiguée, effectivement. Députée Europe Écologie Les Verts de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, sous l'étiquette de la NUPES. Est-ce que c'est tout un symbole pour vous, justement, vous d'Europe Écologie Les Verts? On parlait de symbole, on parlait de diversité. Il me semble que vous êtes une des rares femmes issues de la diversité à être élue au sein d'Europe Écologie Les Verts. Ma chère Sabrina Sebaï.
Bah, en fait, vous pouvez même dire la seule.
Ouais. C'est terrible, non ?
La seule. Oui, bah, absolument. S'il y a bien un rendez-vous manqué de cette élection législative, c'est la juste représentativité de toutes les couches, de toutes les origines et de tout ce qui fait en fait la richesse de la France qui ne se retrouve pas aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Madame la députée, vous êtes adjointe au maire aussi d'Évry-sur-Seine, hein, et vous êtes députée des Hauts-de-Seine, qui englobe la 4e circonscription, ce qui veut dire sur Rennes et enfin Nanterre. Alors, comment allez-vous vous organiser, ma chère Sabrina Sebaï, madame la députée ?
Bah, déjà, je ne serai plus maire adjointe dans quelques jours, puisque la logique veut qu'on ne cumule pas de mandat, donc. Nous, on respecte absolument, on s'est beaucoup battu les écologistes pour stopper la question du cumul de mandats et en fonction et dans le temps. Mmh. Et par ailleurs, ensuite, je préparerai la transition effectivement pour quitter aussi le mandat de conseiller municipal et de me consacrer donc à mon mandat de député pour Nanterre et Suresnes.
Quelles vont être les priorités pour vous maintenant que, ça y est, vous endossez l'habit de la députée ?
Bah, la première priorité, ça va être le pouvoir d'achat. On sait qu'aujourd'hui, on traverse une crise extrêmement grave pour les Françaises et les Français qui ont beaucoup de mal à régler leurs factures. Tout a augmenté. Il y a un texte de loi qui arrive très rapidement sur les bancs de l'Assemblée nationale et on va y travailler avec toute notre énergie pour faire en sorte que la justice sociale et la justice climatique soient totalement représentées dans ce texte.
Comment vous voulez justement représenter les villes de Nanterre sur Rennes ?
Ah bah justement, alors sur la ville de Nanterre et Suresnes, ce qu'on a mis en place, c'est un parlement à l'échelle de la circonscription.
C'est le grand écart entre ces deux villes, hein ?
C'est le grand écart, mais il y a des préoccupations qui sont similaires, parce que si on ne parle que de la question de l'écologie, je pense que tout le monde aspire à avoir une qualité de vie, un niveau de vie amélioré. Ça, c'est assez unanime. Mais il est vrai que dans les villes qui sont plus populaires, on va retrouver des espaces moins végétalisés, donc moins d'îlots de fraîcheur, et c'est ces populations-là qui vont le plus souffrir des pics de chaleur et donc des canicules.
Alors, Madame la députée, Sabrina Sebaï, vous êtes aussi ancienne porte-parole de Yannick Jadot. Madame la députée, vous avez certainement, évidemment, vécu, comme nous tous, l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. Alors, il propose 48 heures pour essayer de bâtir et de réfléchir à des propositions. Vous l'avez vécu comment, justement, Sabrina Sebaï, Madame la députée ?
Bah, moi, je pense que c'est une tentative un peu désespérée d'Emmanuel Macron de vouloir reporter sur les autres forces politiques qui composent aujourd'hui les bancs de l'Assemblée, finalement, le fait qu'il n'arriverait pas à obtenir un consensus sur la rentrée. Nous, on travaillera, on fera des propositions qui seront ambitieuses sur la question sociale, sur la question démocratique et sur la question de la transition écologique, à lui de prendre la balle au bon et d'accepter.
Quel rôle vous voulez jouer ? Le rôle de l'opposant ou le rôle de démocrate qui veut peut-être parfois négocier sur des sujets ?
Nous, nous placerons forcément dans une opposition parce qu'aujourd'hui, le projet sur lequel a été élu Emmanuel Macron, ce n'est pas le nôtre. Nous avons 650 propositions.
Donc tout le monde en opposition, donc un Parlement qui n'avancera guère, certainement.
Mais vous savez, Macron avait 5 ans pour transformer. Au bout de ces 5 ans, il n'a plus de majorité aujourd'hui. Je pense qu'il est entièrement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense au contraire qu'il faut profiter de cette chance qui est redonnée finalement dans ce nouveau Parlement d'avoir une pluralité et un régime parlementaire. Il faut entendre les Français. Ils ne veulent pas du projet d'Emmanuel Macron. Ils ont fait barrage à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron responsable de la situation. Nous avons une forme de proportionnelle au sein de cette Assemblée nationale qui remet en place une forme de régime parlementaire. Nous, c'est ce qu'on défend depuis très longtemps et on travaillera activement à faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens.
Dernière question, Madame la députée, justement, vous savez que dans votre circonscription, la quatrième, on est très écoutés et je voudrais peut-être certainement que vous glissiez un petit message à celles et ceux qui vous écoutent ce soir.
Ah ben, le message, c'est que vous pouvez compter sur moi pour être au boulot. D'ailleurs, j'y étais dès lundi à l'Assemblée nationale pour être au travail et pour commencer à prendre mes marques et mes repères au niveau de l'institution. Et puis, je serai demain après-midi sur la circonscription pour aller revoir toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette campagne.
Et je sais qu'il y a très peu de logements sociaux dans le 92 et c'est un de vos chantiers, hein, me semble-t-il.
Ah ben oui, alors je pense que l'une des urgences est de faire respecter aux maires, notamment de droite, la loi SRU, puisqu'ils ne construisent pas assez de logements sociaux. Et malheureusement, ce sont quelques villes du 92 qui sont obligées d'absorber l'essentiel des demandes de logements, qui créent un déséquilibre et qui n'est absolument pas acceptable. Et ça, c'est aussi quelque chose que Macron avait promis et qu'il n'a pas respecté.
Sabrina Sebaï, fraîchement élue, donc Europe Écologie Les Verts. Moi, félicitations et bravo. Oui, Philippe Nadji-Bouriaki.
Je voulais dire à Sabrina qu'elle restera toujours dans mon cœur. C'est une femme juste extraordinaire. Elle a fait une campagne avec, franchement, des caricatures antisémites, islamophobes. Elle est restée digne, elle est restée droit dans ses bottes. Et pour moi, c'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale à travers Sabrina. Et elle nous représente dignement. Elle représente tous les enfants issus de l'immigration qui sont français, tous les enfants des quartiers populaires. C'est une voix qui va compter. C'est une femme forte, une femme respectable. Et je suis... c'est ce que j'ai écrit, même si nos chemins politiques se séparent, c'est pas de gaieté de cœur, en tout cas.
Vous lui répondez, Sabrina Sebaï?
Elle est toujours proche de moi et je
Vous voulez lui
toujours.
Répondre?
Ah ben, je vais le remercier, bien sûr, Philippe, c'est un soutien et un ami d'ailleurs. Donc, bien sûr que je suis très heureuse et au même titre que j'ai été heureuse lorsqu'il a été élu conseiller régional et on s'est toujours soutenu parce que je pense que c'est important, effectivement, qu'il y ait vraiment une juste représentation des banlieues, de la diversité, des minorités, mais enfin, vraiment qu'on soit tous représentés dans les différentes instances, parce qu'en fait, nos voix, elles comptent.
Merci, ma chère Sabrina Sebaï. Donc fraîchement élu. Merci Madame la députée. Bon courage, bon vent à vous. Et vous revenez bientôt sur notre antenne. Hein. Attention. Hein.
Avec grand plaisir.
Voilà, puisque merci vous étiez débattrice, je le rappelle. Merci à vous. 19h30, c'est parti. Le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Et je saluerai Pierre-Henri qui est avec nous, qui sort des bouchons et qui est avec nous sur le plateau. Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir Adil.
Comment allez-vous?
Bah, très très bien, et je dirais même plus, très 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 bien.
Bah oui, parce que j'ai vu que vous aviez fait 200 000 abonnés, mais quel carton, quelle star de votre chaîne YouTube. On peut en parler vraiment, et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les 200 000. Comment vous avez fait?
Eh bah, du travail, encore du travail, remise en cause. Effectivement, 200 000 abonnés, j'ai créé cette chaîne en 2016. On avait 8 000 abonnés en janvier 2019, et puis ça, c'est parti. 100 000 en décembre 2020, et là, 200 000 depuis mardi.
Vous êtes devenu un poids, donc, de la toile, désormais. Bah, 200 000, ça y est, vous représentez un poids.
Ah oui, là, disons que, puis, je suis libre, c'est chez moi. Donc, je fais ce que je veux. Comme vous le savez peut-être, il y a des médias qui me blacklistent, oui. France Inter, oui. France Culture, Le Monde, qui oui. sont normalement les prescripteurs. Eh ben, ça, on n'est pas obligé de passer sous leur fourche coudine ou de faire affaire avec eux pour avoir du succès et avoir une voix. Et je pense que c'est le pari à la fois d'une remise en cause permanente avec mon équipe, et puis le pari de dire que la géopolitique, c'est pas uniquement le 7e arrondissement, c'est pas uniquement les beaux quartiers. Moi, comme vous savez peut-être, J'étais à Mantes-la-Jolie quand j'étais au lycée, à Vitelleuse pour mes études supérieures. Et donc, je pense qu'il faut parler à tout le monde et que la géopolitique, ça concerne tout le monde. Et donc, ce n'est pas uniquement réservé à un petit nombre de gens qui parlent entre eux, qui sont dans l'entre-soi. Il faut faire un peu de pédagogie, il faut être accessible et surtout, il faut respecter le public en ne cédant pas aux pressions, en ne cédant pas aux rapports de force, mais en disant vraiment ce que l'on pense. Moi, je pense que je dis et je dis ce que je pense.
Comment fait-on justement, mon cher Pascal Boniface, pour aller, pour celles et ceux qui vous écoutent partout en France, pour vous abonner à votre chaîne? Comment elle s'appelle et comment s'y rendre?
Alors, il faut aller sur YouTube et il faut taper soit Pascal Boniface, soit Comprendre le Monde. La chaîne apparaît, il suffit de cliquer.
C'est bien ficelé. Hein.
C'est
bien ficelé.
C'est aussi simple que cela. Et c'est vrai que.
Un de plus, là, vous venez de gagner aussi... un de plus ce soir, là, sur le plateau de Désinformer.
Bah, et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs hein, de Beurre FM qui sont abonnés et qui régulièrement m'encouragent dans les transports, m'envoient des messages, etc. Et ça, ça fait chaud au cœur et ça compense pas mal d'avanies.
Bravo, félicitations pour les 200 000. On vous attend donc dans quelques mois pour les 250, puis bientôt 300 alors. 300 000
bah, on va continuer. En tout
allez,
cas,
on va faire grossir, on va faire grossir le cercle, les abonnés. Tous les auditeurs qui vous écoutent ce soir, il faut aller cliquer, vous abonner à la chaîne de Pascal Boniface sur la chaîne YouTube. Allez-y, allez-y, allez-y. Et bravo et félicitations, mon cher Pascal Boniface.
Merci de ton soutien, Adil. Merci.
Avec grand plaisir, je vais accueillir Pierre-Henri qui est sur le plateau. Bonjour, mon cher Pierre-Henri.
Bonjour Adèle Farkan.
Coincé, c'est rare que vous soyez coincé dans les bouchons.
Ah oh ben oui, mais enfin une heure et demie, voilà, c'est le tarif oui. En ce jeudi soir.
C'est ça, c'est le tarif.
C'est le tarif et donc c'est ça. Donc pour venir chez vous, il faut prévoir une heure et demie.
Une heure et demie, oh là 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 là.
Bah. Depuis le 18e, pour ceux qui connaissent.
Bon.
Donc, bon, mais voilà, nous sommes sur le plateau.
Et je vous donnerai la parole justement dans une poignée de minutes, juste après la pub. Ah bah, je voudrais juste accueillir Mohamed Delon-Jumeau sur justement la politique, le dégoût de la politique, tout ça, la locution.
C'est un monsieur à particules Mohamed Delon-Jumeau.
C'est ça, c'est ça. Mohamed, bonsoir mon cher Mohamed.
Bonsoir Monsieur Berkane, vous allez bien?
Très bien, je vous remercie infiniment. Bienvenue, on vous écoute.
Bah écoutez, je suis très heureux d'être passé derrière Sabrina Sbahi. Je voulais en profiter justement pour la féliciter et lui souhaiter à elle et à tous les députés de la NUPES bon courage pour cette législature. Voilà.
Bon, le message est passé, effectivement.
Et justement, par rapport à cette législature, honnêtement, la seule responsabilité incombe au président de la République. C'est lui qui a mené un mandat, le mandat précédent, un mandat jupitérien, comme on l'appelle en ce moment, puisqu'il a gouverné seul, avec un Parlement qui lui était tout acquis. Il n'a pas écouté l'opposition. Tous les amendements au projet de loi ont été refusés par la majorité, par l'ancienne majorité. Donc, il a gouverné seul pendant 5 ans. Résultat, il a été élu par défaut parce qu'on a contré la haine du Rassemblement National et aux législatives. Bon, voilà, il a tout ce qu'il mérite. Qu'il vienne pas, comme on l'a entendu hier soir, jeter la responsabilité sur les autres formations politiques qui, elles, n'ont fait que leur travail et leur devoir. C'est-à-dire présenter un projet qui, pour beaucoup d'entre eux, a été accepté par un certain nombre de Français. Le sien a été refusé. Il se retrouve en minorité. Il n'a même pas une majorité relative. Il est en minorité. Donc, il est obligé de composer avec les autres formations politiques. Moi, ce que je crains durant ces 5 années, et je vous le dis sincèrement, c'est que il y a une droitisation, c'est-à-dire, ou du moins, une extrême droitisation de la République.
On a 89 députés, donc c'est bien en marche.
Et,
hein.
et une extrême droitisation, c'est-à-dire qu'il va faire passer les lois les plus extrêmes, et notamment celles qui visent les Français de confession musulmane, et, parce qu'il y a un certain nombre de députés RN qui voteront bien évidemment pour. Voilà, moi c'est le seul souci que j'ai et honnêtement la responsabilité de ce blocage institutionnel incombe à Emmanuel Macron et à lui seul. Hein.
Eh bien, merci d'être intervenu, mon cher Mohamed, et merci pour votre fidélité. Donc, et à très bientôt, hein, mon cher Mohamed.
Donc, oui, à bientôt, monsieur Bakan.
À bientôt, au plaisir. On va marquer la pause pub, la dernière, et je donnerai la parole à Pierre-Henri. Fracture des législatives, les pressions sur les groupes politiques, l'ultimatum, les fameux donc 48 heures, on en parle, on vient le décrypter et surtout apporter une analyse. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, il est 19h43, 01 53 48 3000, nous vous attendons au standard, justement. Je redonne la parole puisque nous sommes avec Rayed Chaibi, avec Pierre, Philippe Nadjiboyaki et Pierre-Henri. Pierre-Henri, on ne vous a pas entendu justement concernant l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, mais surtout, évidemment, de ces fameux 48 heures.
Oui, enfin, les 48 heures, c'est aussi un élément de langage des oppositions. Il n'a pas donné 48 heures. Il faudra le temps, ça prendra le temps que ça, qu'il faudra pour dégager une majorité, sans doute une majorité de projets. On n'aura pas forcément les mêmes majorités en fonction des urgences qui vont se poser au pays. Il y a une première urgence qui est celle du pouvoir d'achat. Bon, est-ce qu'on peut dégager une majorité globale sur un projet de loi pouvoir d'achat? Je le pense. Ça sera pas le plus compliqué. Après,
vous étiez proche souvent de la réalité, hein, de tout ce que vous aviez annoncé ici, hein, sur l'antenne des informés, sur Beurre FM.
Oui, ben écoutez, j'essaie, je regarde, j'analyse, voilà. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, si j'ose dire, c'est d'entendre le discours des différentes oppositions disant que le pays n'a pas voté pour le projet d'Emmanuel Macron, mais qu'il aurait voté pour le leur. C'est totalement faux. Je rappelle d'abord que ce pays se caractérise par 25 millions de personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes. Je rappelle ensuite que, certes,
On a l'explication de ces électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes.
On sait pourquoi. Il n'y a pas eu de campagne.
On sait pourquoi, il y a un divorce. Et puis il y a un divorce aussi.
Mais il y a un divorce.
Il y a un divorce avec la chose politique.
Il n'y a pas eu de campagne, il y a eu beaucoup de médiocrité.
Bah oui, il faut le dire.
Il y a eu beaucoup de médiocrité et donc.
Sur l'antenne ici tous les jours, les gens, les électeurs, les auditeurs venaient pour nous dire on n'a pas envie d'aller voter.
Oui, mais d'accord. Mais.
Et pourquoi? Bah parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà, on est dégoûté.
Mais la démocratie, c'est un bien commun. Qu'il faut préserver le droit de vote. Il y a des gens qui se battent, qui sont emprisonnés pour l'obtenir, qui parfois meurent pour l'obtenir. Donc, attention à ça. Et moi, je suis de ceux qui s'interrogent vraiment pour savoir s'il faut rendre le vote obligatoire ou pas. Parce que au bout d'un moment, c'est pas possible. Je rappelle que le Rassemblement National, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, et qui a effectivement 89 députés, en réalité, c'est quoi? C'est au maximum 5 millions de voix. C'est 5 millions de voix dans un pays qui compte 49 millions d'électeurs. Donc, attention, le rapport au Rassemblement national, tel que sont faits nos institutions, lui donne un poids non négligeable, mais tout de même, alors je sais que Marine Le Pen a obtenu 13 millions de voix au deuxième tour, qu'il y a une droitisation du pays. Mais je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable.
Alors, essayons de faire de la fiction politique, justement. J'aimerais qu'on se lance dans ce futur remaniement ministériel. Qui, quoi, comment, qui doit quitter? Est-ce que le gouvernement, il faut le refaire, évidemment, entièrement? Qui peut y entrer? Et puis surtout, quel futur Premier ministre paraît-il? Alors, il y a des noms qui circulent. Je donne la parole, je distribue la parole. Philippe Nadjiboyaki, Raed Chaibi et Pierre-Henri. Philippe Nadji.
Je le redis, je pense que la meilleure première ministre qu'on pourrait avoir, c'est Valérie Pécresse. Elle a la stature, c'est une femme d'expérience. Elle est présidente de la première région d'Europe.
Je reste quoi, mon cher? Je reste quoi 4,5% à la présidentielle.
Ouais, mais non, il y a eu un vote
Valérie
utile.
Pécresse.
Non, mais attends, il y a eu un vote utile. Il y a eu un vote utile. L'erreur de Valérie Pécresse.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Et je lui dirais. c'est d'avoir un petit.
Bah, vous, vous entendez ça?
Oui, je j'entends, mais je vais essayer de rester sur ma ligne.
4,5 pour la propulser Premier ministre.
Oui, bien sûr, évidemment.
Bah, donc.
Évidemment,
ah, bah,
mais quand, ouais. quand tu mets un Premier ministre comme. J'ai oublié le nom de, du dernier, c'est incroyable. Castex, ouais. tu prends aucun risque. Tu vois, tu rappelle-toi ce que Hollande avait fait comme premier ministre. Il avait mis Manuel Valls. Il avait fait combien aux primaires internes des socialistes, Manuel Valls.
Je suis étonné. Tu aurais pu proposer Anne Hidalgo.
Tu proposes quelqu'un avec qui tu peux gouverner et donc et qui va te ramener des députés. Anne Hidalgo, elle va te ramener Kutchi, elle va te ramener rien du tout, hormis des villes un petit peu partout à Paris. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Donc, à 25%, maintenant, je brade le poste de Premier ministre.
Elisabeth Borne, elle a fait combien? Elle n'a rien fait non plus.
Philippe.
Non, mais elle a rien fait non plus. Elle n'était même pas députée juste avant. Donc,
tu. Enfin,
elle était ministre.
Non, mais
que tu veuilles un poids lourd politique, d'accord. Et Valérie Pécresse, elle a échoué.
Non, mais elle a échoué, ok, à la présidentielle, mais elle a réussi à la région Île-de-France. Donc, ça va, quoi. On peut pas gommer les victoires par
une seule
défaite.
D'un seul coup, je te sens très attiré par les LR.
Non, pas par les LR.
Est-ce que c'est la défaite qui t'attire?
Tu aurais pu choisir
Rachida Dati, par exemple, la star des plateaux. Madame Louboutin du 7e.
Elle clive énormément Rachida Dati.
Il est en forme.
Et ça met trop libre. Alors que là, on parle de quelqu'un qui a la posture d'être Premier ministre. Et donc, la seule à droite aujourd'hui que je vois, c'est Valérie Pécresse. Maintenant, si tu me dis des gens à gauche, j'en ai des noms, mais tu as bien vu tout à l'heure, ils vont camper sur leur position, ils vont dire, nous, on bloque. Notre objectif, c'est d'emmener la banqueroute et pourquoi pas d'emmener Emmanuel Macron à démissionner et que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République. Ils sont dans cette dynamique. Moi, j'ai eu des potes de la France Insoumise. J'ai dit, vous êtes devenus complètement fous. Tu peux pas parler avec eux. Sérieusement, ils sont, on dirait une secte. Donc, calmez-vous, respirez un grand coup.
Pardon, hein, Philippe Ndjibouyaki. Je voudrais juste qu'on fasse un tour de table.
Monsieur.
Avant de rendre l'antenne.
À l'évidence, Elisabeth Borne, elle suscite des crispations. Je trouve que c'est un peu dur parce qu'elle n'a malheureusement pas eu le temps, ne serait-ce que d'appliquer, ou en tout cas de mener l'action gouvernementale. Donc, c'est un peu dur. Je ne me risquerai pas à faire des pronostics, même si demain il devait y avoir une coalition allant de la gauche modérée à la droite modérée. Écoutez, peut-être qu'Elisabeth Borne serait largement capable de pouvoir gérer, ou en tout cas, comment dirais-je, travailler avec ce petit monde-là. Donc, laissons-lui au moins la chance du débutant, entre guillemets. Ensuite,
je vous vois arriver, Pierre-Henri.
Il va dégainer.
Bah, attendez, pour le moment, faut la laisser travailler, la pauvre. On peut pas.
C'est vrai. Elle a tellement bien conduit la majorité lors de ces élections législatives qu'il faut la laisser creuser le trou.
Non, Pierre-Henri, c'est pas de la faute d'Elisabeth Borne si la majorité s'est cassée la figure. Excusez-moi.
Quand on est nommé Premier ministre et juste avant les législatives, on incarne une politique. On y va.
C'est une résultante de tout.
On va au charbon. On va au combat.
Bon, moi j'aime beaucoup.
Bon, chaque candidat doit aller au charbon. Chaque candidat dans sa circonscription doit aller au charbon. Et défendre auprès des électeurs. Je suis désolé. C'est pas de la faute d'Elisabeth Borne. Objectivement, j'ai pas d'attirance particulière pour Elisabeth Borne.
J'ai rien contre cette préfète aux fonctionnaires.
Mais il est juste en train de vous dire qu'elle n'était pas au combat.
Voilà.
Si elle n'était pas au combat, elle n'a pas forcément le profil politique. C'est une technicienne, tout le monde le sait. Mais bien sûr.
Et ben voilà.
Pierre, vous en pensez quoi? Il faut un politique
dans une période qui est quand même extrêmement compliquée. Vous avez vu comment vous avez vu comment les députés de la NUP à 17 ont réussi quand même à faire un cirque pas possible à l'Assemblée nationale. Ils sont aujourd'hui au niveau de la LFI, plus de 80. Bon, on va voir, avec des numéros, pas possible.
Alors comment vous voyez
Bruno Le Maire, François Bayrou, des gens qui ont de l'expérience.
Une femme, on veut une femme.
Qui comprennent Mais oui, mais je suis d'accord pour qu'il y ait des femmes. Et puis d'ailleurs, il y a une candidate permanente au gouvernement, c'est Ségolène Royal. Hein. Bon, ah, oui, ça, oui. C'est fait. Non, mais...
C'est une blague quand même.
Oui, mais attention. Non, je pense qu'il faut passer à un gouvernement politique, mais et avec un projet pour le pays, parce que, je rappelle, il y a des défis énormes qui se posent au pays. La fracture territoriale, c'est pas une blague. La fracture démocratique, c'est pas une blague. La question de la souveraineté énergétique, c'est pas une blague. Donc, voilà, il faut passer à autre chose.
Au pilori. Vous avez été sévère, Pierre-Henri, c'est ça, c'est ce qu'il vous dit. Hein?
J'ai dit, c'est sévère de la clouer au
sévère,
pilori, alors que...
Mais juste, alors que...
Merci à Pierre-Henri.
C'est sévère quand même.
Merci à Philippe Nadjibouyaki, merci à Raël Chebi, merci messieurs.
Merci. Au plaisir.
Tout de suite, c'est Bilal Nedman et son programme de Time Sport à la réalisation, absolument avec grand plaisir. À la réalisation, c'était Yanis. À demain, avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.